6 janvier 2025, France Bleu devient ici, plus que jamais connecté à notre région. Ici, le nouveau nom de votre radio locale, J-11.
Jeudi 26 décembre, bon début de journée avec France Bleu, il est 5h. Le journal, Marie Martyr-Ursian. Le choc et les questions à la SNCF après le drame survenu mardi soir.
Le conducteur d'un TGV s'est suicidé le soir du réveillon du 24 décembre. Il s'est jeté de son train en marche au niveau de Crisenois, commune de la Seine-et-Marne en région parisienne. Le parquet de Melun a ouvert une enquête pour recherche des causes de la mort. Valentin Bertrand, cette enquête se concentre sur le profil de ce cheminot.
Oui, car le geste est rarissime. Un conducteur qui saute de sa cabine à près de 300 km/h, c'est, de mémoire de cheminot, du jamais vu. Parmi ses collègues et amis, tous cherchent à comprendre les raisons de ce passage à l'acte du conducteur de 52 ans, expérimenté et décrit comme un camarade exemplaire, engagé de longue date à la CGT, mais également père de famille installé à Saint-Étienne. Une réalité trop vite éclipsée par des polémiques, regrette Stéphane Collin de la CGT Cheminot de la Loire.
Et il a quand même une fille et un fils. Ils ont perdu leur papa. Et des parents ont perdu un fils. Et je rappelle, un peu de dignité pour eux. C'est la vie humaine, merde.
Les syndicats qui rappellent qu'un suicide sur le lieu de travail un soir de Noël n'est jamais anodin, même si pour l'instant rien ne permet de faire ce lien. Toute la famille cheminote est en deuil, écrit la SNCF dans un communiqué, sans faire plus de commentaires sur la situation professionnelle et personnelle du conducteur. La compagnie ferroviaire qui précise que toutes les mesures de sécurité ont fonctionné et permis un arrêt d'urgence du train en quelques secondes.
Mais comment fonctionnent justement ces systèmes de sécurité dans nos trains? Qu'est-ce qui est prévu en cas d'urgence, comme justement dans ce type de situation? On vous explique tout ça dans l'info d'ici, décryptage complet donc tout à l'heure à partir de 5h30. Un autre drame, cette fois-ci dans les Alpes. Hier, un adolescent de 14 ans est mort emporté par une avalanche. Ça s'est passé à la station des Arcs, en Savoie. Le garçon skiait avec 6 membres de sa famille dans un secteur hors piste. Il n'était pas équipé de détecteur de victimes d'avalanche. Ce sont ensuite 2 équipes de secouristes accompagnées par des chiens qui ont réussi à le retrouver.
Et puis lui souhaite plus de moyens pour une justice plus rapide.
Le nouveau garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui a fait son premier déplacement hier en Picardie avec une visite d'abord au palais de justice d'Amiens, puis dans une prison de l'Oise à Liancourt, l'occasion pour l'ancien ministre de l'Intérieur de lancer de premières pistes d'action, Pierre de Cossette.
Quand certains envisagent la construction de places de prison pour lutter contre la surpopulation carcérale, Gérald Darmanin, lui, voit surtout cela comme un moyen de faire exécuter les courtes peines en détention. Alors que le nombre de détenus bat des records en France et que dans certaines maisons d'arrêt, il y a 2 fois plus de détenus que de places, alors aussi que l'objectif de construire 15 000 places de prison lancé par Emmanuel Macron en 2017 est très loin d'être atteint, Gérald Darmanin songe à des prisons à taille humaine, plus faciles à faire sortir de terre que des prisons pour des longues peines, avec des miradors et des barbelés, dit-il. Des prisons plus adaptées aux courtes peines, selon le nouveau ministre de la Justice. Gérald Darmanin ne précise pas si la circulaire de politique pénale qu'il a prévu d'adresser aux procureurs dans les prochains jours incitera les parquets à faire exécuter les courtes peines en prison. Une certitude, pour les peines de moins de 6 mois, l'aménagement est aujourd'hui la règle. Et pour changer cela, il faudrait modifier la loi.
Une précision signée Pierre de Cossette. Et pour rappel, en novembre dernier, la surpopulation carcérale en France a atteint un nouveau record de 128,5%. Ils nous ont fait rêver cet été pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 4 athlètes sont célébrés ce matin par les rédactions du journal L'Équipe qui, comme l'an dernier, sacre donc 4 champions, des champions de France dans les catégories hommes, femmes, para-hommes et para-femmes. La triathlète Cassandre Beaugrand, la paracycliste Marie Patouillet sont récompensées ainsi que le paracycliste Alexandre Léauté. Sans oublier notre incontournable Léon Marchand qui remporte le trophée pour la 2e année consécutive.
Et puis en ce lendemain de Noël, si vous l'avez fêté hier, votre frigo est sûrement plein.
Oui, avec le reste de dinde qu'on n'a pas pu finir, le fromage, les dernières petites parts de bûches de Noël, pas toujours simple de savoir quoi en faire de tous ces restes. Alors c'est quoi justement vos recettes magiques à vous pour cuisiner vos restes de repas de Noël? On vous a posé la question, on a posé la question à plusieurs habitants du Gard.
J'ai pas vraiment de recette, si ce n'est de réchauffer, quoi.
Il nous reste des marrons, de la courge, du butternut. On va faire une bonne soupe, puis il reste quelques petits toasts. Ça nous complétera un petit apéritif encore.
Ce qu'on fait, c'est juste réchauffer les restes tels quels. On le passe peut-être à la poêle avec un peu de beurre pour pas que ce soit trop sec.
On les a bien préparés, donc on les mange comme ça.
On peut faire un farci si on a une dinde avec les blancs.
qui ne se mange principalement pas, avec les ailes, les pâtes. On peut faire un pot-au-feu avec des légumes. Et ça fait le repas du lendemain.
Et puis c'est vrai que ça fait un petit peu durer les fêtes en quelque sorte avec ces restes de repas de Noël recyclés. Témoignage recueilli pour France Bleu au micro de Mathilde Ansker.
Et surtout, on recommence la semaine prochaine pour le 31.
Eh oui, c'est jamais fini. Faut prendre des forces, justement.
Faut être gourmand dans la fin d'année. Voilà, exactement. C'est ça. Ce qui serait bien, c'est que le soleil aussi reprenne des forces.
Ouais, à votre visage,
c'est
je vois
pas terrible.
Que c'est pas...
Ouais, non, c'est pas terrible. Le temps est gris ce matin en Bretagne, encore. Normandie, ouais, Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val de Loire et une partie de l'Occitanie. Ailleurs, des éclaircies quand même et même un grand soleil, notamment en Provence, Alpes-Côte d'Azur et en Corse. Pour les températures ce matin, si vous êtes à Strasbourg, vous avez 2 degrés. Auxerre, Montélimar 4, Limoges 5, Toulouse 6, Paris, Lille, Marseille 9, Cherbourg et Nantes 10. Cet après-midi, le ciel se dégage, sauf en Bretagne et sur la pointe de la Normandie où les nuages seront bien présents. Pour les températures, prévues entre 3 et 11 degrés sur la moitié nord et entre 5 et 17 sur la moitié sud. Demain, la journée sera identique à celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire un peu grise le matin sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique, mais ensoleillée l'après-midi dans tout le pays. Météo France prévoit des minimales à 0 le matin et des maximales à 16 l'après-midi.
Ici, dès 5 heures, Catherine Quicandon, Marie Martirossian sur France Bleu.
5h06, que diriez-vous d'économiser 100 euros grâce à votre ballon d'eau chaude? C'est ce que nous propose Valère Coréard dans quelques minutes. Je vous rappelle également que cette semaine, nous vous offrons la hotte du Père Noël avec l'intégrale des Animaux Fantastiques, un coffret de Johnny et bien d'autres choses. Pour cela, un seul numéro, 0810 055 056, 0810 055 056. Appelez-nous maintenant en écoutant Vanessa Paradis, Be My Baby sur France Bleu.
Can you tell?
My Baby, Vanessa Paradis, ici sur France Bleu à 5h10. Et dans un instant, Marie, on va parler du don du sang.
Oui, des dons qui sont en baisse en général pendant les fêtes. C'est donc important de pouvoir donner son sang en ce moment. On va en parler tout de suite.
Effectivement, toutes les explications dans quelques secondes.
Bientôt, votre radio change de nom.
Ici, tous les jours sur France Bleu, on parle d'ici. Et pour se sentir encore plus proche de vous, votre radio locale va se rebaptiser ICI. Trois lettres pour dire tout ce que l'on partage, être ensemble, au même endroit, au même moment, connectés les uns aux autres.
En 2025, France Bleu devient ICI. ICI dès 5h.
Actu locale, musique et bonne humeur
sur France Bleu.
5h11 sur France Bleu, et si vous faisiez une bonne action en cette période de fête?
On a tendance à l'oublier entre la dinde et les cadeaux, mais l'EFS, l'établissement français du sang, a besoin de dons encore plus en ce moment, en cette fin d'année, période en général plus creuse pour les dons de sang, alors que les besoins, eux, sont toujours là. En France, chaque année, pour soigner 1 million de malades, 10 000 dons de sang par jour sont nécessaires. Anne-Natacha Bouillon, vous l'avez constaté dans le Puy de Dôme, l'EFS appelle en ce moment à la générosité des donneurs.
Entre la course effrénée pour les cadeaux et les étrennes et la préparation des réveillons, pas vraiment le temps de se poser quelques minutes pour donner son sang, plaquettes et autres plasmas. Pourtant, les besoins sont constants. L'établissement français du sang n'hésite pas à solliciter les donneurs habituels. Kevin a pris rendez-vous dès qu'il a été relancé.
Alors je reçois des SMS, oui, disant qu'il faut toujours penser à donner malgré les fêtes. Après, je suis plus là, je pars en vacances, donc j'en profite maintenant.
Claudia profite d'un rendez-vous médical pour faire un détour à la maison du sang de Clermont-Ferrand, accompagnée de Paul.
Et je donne régulièrement parce que je suis du groupe Universel. Et en période des fêtes, peut-être qu'il y aura des besoins pour soigner des gens ou pour des accidents. Donc je le fais aujourd'hui.
Je suis interdit de don, j'ai plus de 71 ans. J'ai longtemps donné, mais on ne veut plus de moi puisque je suis trop âgé.
Faute de pouvoir donner, Paul continue de sensibiliser. Il faudra deux personnes pour le remplacer, précise Leïla El-Hiri, cadre de santé.
Parce que la fidélisation avec la société actuelle est plus difficile et nous devons nous assurer qu'en fait, ces donneurs qui étaient anciens et qui étaient très réguliers sont remplacés par des donneurs qui deviendront réguliers. Mais on constate aujourd'hui que les nouveaux donneurs ne donnent pas autant que les anciens donneurs.
Yann, sensibilisé par ses parents dès ses 18 ans, préfère lui venir avant de se lâcher en soirée.
J'essaie de ne pas faire n'importe quoi la veille, de ne pas sortir, de ne pas aller forcément trop au restaurant pour manger trop.
Bien que la fête soit compatible avec le don du sang, rectifie Leïla El-Hiri.
Bien sûr, vous pouvez venir donner votre sang le lendemain d'un réveillon. L'alcool n'est pas contre-indiquant au don. L'alimentation, peu importe, ce n'est pas contre-indiquant au don. Hein. Ce qui pourrait être contre-indiquant, c'est si une personne est fatiguée, qu'elle a trop fait la fête, ou qu'alors elle sait qu'elle a beaucoup de route pour partir en vacances ou revenir en vacances. Et là, il faut être assez prudent pour se dire que si je donne mon sang, je suis en forme. Ce qui compte, c'est d'être pas fatigué, d'avoir bien dormi et de se sentir en forme le matin pour venir donner, tout simplement.
Pas de trêve pour les receveurs, c'est Marielle Donneuse qui le dit.
Il n'y a pas de jour pour être malade, il n'y a pas de jour dans l'année pour donner. Et puis, il n'y a pas d'excuse pour ne pas le faire d'ailleurs.
Le reportage d'Anne-Natacha Bouillon de France Bleu Pays d'Auvergne. Si vous souhaitez vous aussi donner votre sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans, peser au moins 50 kilos et ramener sa pièce d'identité. Vous êtes ensuite reçu par un médecin et les équipes de l'EFS veillent sur vous après votre don pendant environ 20 minutes.
Et puis sans oublier la petite collation fournie à la fin. Vous serez donc prise en charge du début à la fin de votre don. Marie, comment faites-vous pour baisser la facture d'électricité? Est-ce que, par exemple, vous débranchez les appareils en veille?
Oui, le petit interrupteur rouge là sur les multiprises, moi je fais ça. Et puis les heures creuses, les heures pleines, j'essaye de faire attention.
Effectivement,
c'est pas très forte, mais j'essaye.
C'est une très bonne idée. Alors Valère Correa, lui, nous propose un moyen ultra simple et qui concerne notre chauffe-eau. Grâce à ce conseil, vous pourrez économiser en moyenne 100 euros, ce qui est plutôt intéressant. Vous en conviendrez. Comment faire? Réponse après Francis Cabrel et la Dame de Haute-Savoie sur France Bleu.
Quand je serai fatigué de sourire à ces gens qui m'écrasent. Quand je serai fatigué de leur dire toujours les mêmes phrases. Quand leurs mots voleront un éclat. Quand il n'y aura plus que des murs en face de moi. J'irai dormir chez la Dame de Haute-Savoie. Quand je serai fatigué d'avancer dans les brumes d'un rêve. Quand je serai fatigué d'un métier où tu m'as.
je n'aurai plus ma place. Au lieu de me jeter sur le premier Jésus-Christ qui passe, je prendrai ma guitare avec moi et peut-être mon chien s'il est encore là, et j'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie, chez la dame de Haute-Savoie.
La dame de Haute-Savoie, Francis Cabrel, ici sur France Bleu, 5h17. Alors, vous avez envie ou besoin de faire des économies? Notre monsieur bon plan est là, c'est Valère Coréard. Bonjour Valère.
Bonjour Catherine.
Chaque jour avec vous Valère, un très bon plan pour nous redonner du pouvoir d'achat. Évidemment, aujourd'hui on économise
100 euros en baissant de 10 degrés la température de notre chauffe-eau.
Ah, ça vaut le coup. Alors,
vous saviez que le chauffe-eau quand même représente jusqu'à 20% de notre consommation d'électricité. C'est quand même énorme, un cinquième. C'est pour ça qu'il est l'objet de toutes mes attentions. Et voici un moyen ultra simple de réduire son coût sans rien changer à vos habitudes. En général, la température du ballon, elle est réglée sur 60 ou 65 degrés. C'est très très chaud, oui. C'est trop chaud en fait, ça n'a aucune utilité. On considère que 50 degrés, c'est largement suffisant. Donc en baissant un peu la température, vous allez pouvoir économiser 100 euros par an.
Comment fait-on donc pour changer la température de notre chauffe-eau ?
Alors ça, c'est une bonne question et ça dépend du modèle en fait. Si vous avez un appareil récent, il y a un affichage digital sur la façade et là, c'est très facile de régler la température de chauffage. Par contre, si votre modèle est plus ancien, comme le mien, il faut peut-être démonter le bloc devant et vous allez avoir une petite molette à faire tourner pour réduire un peu la température.
Alors, moi, j'ai une molette, mais sur le devant, et il y a un mode éco.
Mode éco, ça veut tout dire et rien dire. Il faut regarder la notice pour voir quel est l'impact réel. Mais à mon avis, ça va dans la bonne direction, Catherine, vous avez raison. Et puis, dans tous les cas, jetez un œil sur le mode d'emploi où vous allez trouver sur Internet. Moi, je suis vraiment un bricoleur du dimanche et je peux vous dire, j'ai réussi. Voilà. Et si à l'usage, ça ne vous convient pas, vous revenez en arrière si vous trouvez que c'est un peu trop tiède.
Évidemment. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il y a un risque à trop baisser la température de l'eau, notamment pour notre santé, par exemple?
Ça, c'est aussi une bonne question. C'est vrai, mais uniquement si on est en dessous des 50 degrés.
Oui, on a de la marge.
Voilà. C'est un argument qui vient d'une réglementation, en fait, qui impose aux collectivités. J'ai bien dit aux collectivités, de stocker l'eau chaude au minimum à 55 degrés. Alors, 50 degrés pour un particulier, ça permet d'éliminer, parce que c'est ça l'enjeu, les risques de bactéries, notamment la légionellose qui ne résiste pas au-delà de 45 degrés. 50, c'est d'ailleurs un seuil intéressant pour éviter le développement du tartre. Et pour vous assurer de la température, il suffit de mettre un thermomètre, tout simplement, sous l'eau chaude du robinet pour vous assurer qu'on est bien au-dessus des 50 degrés. Voilà, en tout cas, vous savez désormais comment économiser 100 euros par an en baissant de 10 degrés la température de votre chauffe-eau et au passage, de consommer moins d'électricité. Et ça, c'est ce qu'on appelle faire d'une pierre deux coups.
Et si vous aussi, vous avez des bons plans, n'hésitez pas à écrire à Valère Coréard. Par ici, leséconomies@radiofrance.com. Et puis demain, Marie, d'autres économies, et ce, grâce à votre chat. Et oui, Chai peut vous faire économiser de l'argent.
Bah ça, j'aimerais bien le savoir, parce que à part manger des croquettes...
Non, mais vous allez voir, vous allez voir. Alors Marie, je crois savoir que quand vous étiez petite, vous adoriez les Legos.
Oui, j'adore toujours d'ailleurs.
Ah bah, vous avez bien raison. Et bien ça tombe bien, parce que dans un instant, nous plongeons dans leur histoire. Mais d'abord, Klaas, Luciani, Tout pour moi, sur France Bleu.
T'es qu'un grain de poussière sur cette terre. Si on dézoomait le planisphère, je te tiendrai entre mes doigts. Je te tiendrai entre mes doigts. Je ne sais pas si l'histoire retiendra ton nom, ton profil, si tu écriras un livre ou un opéra. Faut parmi les mers, c'est qu'une fois parmi les mers.
Clara Luciani qui vient de faire ses premiers pas au cinéma. Elle est à l'affiche du dernier film de Diastème, joli joli, sorti hier dans les salles. Elle sera aussi en concert à partir du 18 janvier. Tout pour moi sur France Bleu.
France Bleu, ici dès 5h.
Actu locale, musique et bonne humeur.
Quel était votre jouet préféré quand vous étiez petit? Ici, nous profitons des fêtes de fin d'année pour se remémorer les jouets de notre enfance.
Oui, ils sont nombreux, mais certains nous parlent à tous, comme par exemple les Barbie ou bien les Polly Pocket.
Sans oublier les Lego, et c'est eux dont nous parle maintenant Corentine Fels en nous racontant leur histoire.
Apprendre en jouant. À partir des années 60, la perspective d'offrir des jeux éducatifs séduit les parents.
Viens voir, ce jouet, il est parfait pour son développement.
C'est le cas pour un nouveau jeu de construction d'origine scandinave, baptisé Lego.
Tu as sûrement vu un de ces, un Lego klods.
Le nom Lego, contraction des mots danois Leg Got, signifie d'ailleurs bien joué.
Moi j'avais l'impression qu'on avait une montagne de Lego, c'était énorme devant nous.
Un jeu de bâtisseur pour Séverine et sa sœur.
Moi j'ai le souvenir du bruit du baril de lessive, on le chavirait. Et ce souvenir-là, ce clic-clic de Lego.
À l'origine du jeu de construction le plus célèbre au monde, l'entreprise de jouets en bois d'un menuisier charpentier fondée au début des années 30. En 1947, la société Lego fait l'acquisition d'une machine pour mouler le plastique par injection. 2 ans plus tard, les premières briques emboîtables sortent de l'usine. Ce jouet, trop différent des produits proposés jusqu'ici, déstabilise le public et reçoit un accueil mitigé. Les dirigeants de la marque persévèrent et ne cessent d'améliorer le système.
Attention, on est voilà.
En 1958, l'invention est brevetée. 3 fûts cylindriques à l'intérieur des briques augmentent désormais la solidité des constructions. L'acétate de cellulose laisse place en 1963 au plastique ABS. Les briques sont plus solides et les couleurs, rouge, bleu, jaune et verte, plus uniformes. Le jouet du siècle est né.
Et on devait construire notre bateau le plus grand possible.
Et on éclairait le bateau à l'intérieur avec une lampe et on trouvait ça formidable. Je me revois sur le parquet du salon de la Baugerie avec ce grand bateau très bariolé.
Ouais, je revois vraiment finir notre bateau et être fière de ce bateau qui me paraissait mesurer 2 ou 3 mètres d'ailleurs.
Des boîtes numérotées contenant un nombre plus ou moins important de briques de couleur, des portes, des fenêtres et des roues stimulent l'imagination de centaines de milliers d'enfants dans le monde.
Hissez la grand voile ! Hissez la grand voile !
On bâtit sans relâche, maisons et tours, voitures et ponts, on monte, on démonte directement au sol ou bien en se servant de plaques vertes ou grises comme terrain de construction. Les évolutions s'enchaînent. Le train Lego en 1966, les Duplo, ces briques plus grosses destinées aux petits en 69, les petits personnages en 74 ou la gamme dite technique et ses moteurs pour les plus grands en 77.
Je trouve que c'était surtout le plaisir de construire.
Non, on jouait pas avec. De toute façon, on pouvait rien en faire de notre bateau.
Il était tellement grand qu'on pouvait pas le promener dans l'appartement.
C'était des réels projets, ouais. On était architectes.
En 78, les figurines, apparues 4 ans plus tôt, sont remplacées par des mini-figurines. Leurs bras et jambes bougent et elles peuvent représenter de nombreux métiers. La marque propose même à partir de 79 l'univers Fabuland, un pays peuplé de personnages à tête d'animaux entièrement conçu pour les plus petits. En 2010, la brique Lego a été élue jouet le plus populaire de tous les temps. Chaque seconde, 7 boîtes de Lego sont vendues dans le monde. Depuis leur apparition, 400 milliards de briques ont été produites et 4 milliards de petits personnages.
Je sais pas ce qu'ils sont devenus d'ailleurs ces Lego.
Maman a dû les garder pour ses petits-enfants. Et c'est l'héritage.
L'héritage.
Ouais.
L'invention du charpentier danois pouvait donc résister à tous les bouleversements technologiques.
Merci Corentine Fels. Rendez-vous demain pour un autre jouet qui a marqué des générations. Sophie la girafe, n'est-ce pas Marie?
Bah tout à fait.
Vous en aviez une?
Je crois que oui.
Bon, j'en avais une, je vous la prêterai si besoin. Bah,
merci, c'est gentil.
Autre souvenir en musique, celui-ci avec Alain Souchon, Quand je serai KO sur France Bleu.
When petite sœur will just have to remember I'll be down no more the old dancing music sound all day long in my gown when I will be down. Quand je serai KO, descendu des plateaux de phono, poussé en bas par des plus beaux, des plus forts que moi, est-ce que tu m'aimeras encore
dans cette petite mort. Attention, plus personne, porteur de glace de chewing-gum. Plus de belle allure, chevaux glissant sur la côte d'Azur. Quand je serai pomme dans les souvenirs, les albums, est-ce que tu laisseras ta main sur ma joue posée comme ça? Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort? When, petite sœur, we'll just have to remember. I'll be down no more the old dancing music sound. All day long in my gown, when I will be down. Plus d'atoll pour une déprime qu'à du bol. Plus les folles griffonnant, je t'aime sur des bristoles. Quand je serai rien qu'un chanteur de salle de bain. Sans clap, clap, sans guitare, sans les batteries qui tapent. Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort? Quand je serai chaos, descendu des plateaux de fond, poussé en bas par des plus beaux, des plus forts que moi. Est-ce que tu m'aimeras?
Quand je serai KO, Alain Souchon qui est toujours en tournée avec ses fils Pierre et Ours, il sillonne la France jusqu'à fin juin, n'hésitez pas. Jeudi 26 décembre, bon début de journée avec France Bleu. Marie, dans l'info d'ici, on parle
du drame d'avant-hier sur les rails, un conducteur de TGV qui s'est suicidé occasionnant de gros retards. Une question, comment fonctionnent les systèmes de sécurité dans les trains en France? On vous explique tout ça.
Mais avant 5h30, toute l'actualité en France et dans le monde, c'est le 90 secondes avec vous Marie Marty-Rossian.
Un garçon de 14 ans mort hier en Savoie dans une avalanche. Il skiait dans un secteur hors piste avec plusieurs membres de sa famille. Deux équipes de secouristes ont réussi à le retrouver à l'aide de chiens. Depuis le début de la semaine, les professionnels de la montagne appellent à la plus grande vigilance en raison de la météo. Il faut éviter à tout prix les zones de hors piste. De nouvelles opérations de sauvetage de migrants dans la Manche. 12 opérations en seulement 24 heures. Et ce, en raison d'une météo clémente qui encourage les tentatives de traverser pour rejoindre l'Angleterre. Au total, 107 migrants ont été secourus en mer selon un bilan de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. Gérald Darmanin souhaite plus de moyens pour la justice, objectif affiché hier par le nouveau garde des Sceaux qui était en visite au palais de justice d'Amiens et dans une prison de l'Oise à Liancourt. L'ancien ministre de l'Intérieur s'est dit favorable à la construction de nouveaux établissements pénitentiaires.
Ce que nous voulons, c'est plus de rapidité. Plus de fermeté, on ne peut pas le faire avec des moyens constants. Ils seront raisonnables, mais nous devons augmenter ce budget du ministère de la Justice.
Et pour rappel, la surpopulation carcérale en France a atteint en novembre dernier un nouveau record de 128,5%. Et puis 4 sportifs sacrés par les rédactions du journal L'Équipe, sacrés champions des champions France dans 4 catégories. Les paracyclistes Alexandre Léauté et Marie Patouillet, ainsi que la triathlète Cassandre Beaugrand et notre grand nageur Léon Marchand, tous sacrés donc par le journal L'Équipe.
5h32 sur France Bleu, Marie dans l'info d'ici ce matin, retour sur le grave accident de personne survenu le soir du réveillon de Noël en région parisienne.
Et qui avait ensuite occasionné de très gros retards sur une dizaine de trains, la SNCF l'a annoncé hier. C'est en fait un conducteur de TGV qui s'est suicidé alors que le train roulait. Cet homme a abandonné son poste de conduite avant de sauter du train en marche. C'était à la hauteur de la commune de Crisenois en Seine-et-Marne. Un drame qui endeuille la SNCF, mais il faut le souligner, aucun passager n'a été blessé. Alors que le train a pourtant roulé sans son conducteur.
Comment c'est possible? Est-ce qu'il y a un système de sécurité particulier dans ces cas-là?
Absolument, ça s'appelle la VACMA, veille automatique avec contrôle du maintien d'appui. En clair, un système qui permet de confirmer que le conducteur ou la conductrice du train est bien là. En fait, pendant qu'il conduit, il doit appuyer puis relâcher une pédale avec le pied ou bien un contacteur avec sa main. Comme ça, la machine sait qu'il est conscient et bien présent. S'il ne le fait pas, une alarme très forte retentit alors et le train s'arrête.
Lors du drame d'avant-hier dans le TGV, est-ce que ce système a fonctionné ?
Et c'est en tout cas ce qu'affirme la SNCF dans un communiqué. Elle ajoute, je cite, « La sécurité des passagers n'a été menacée à aucun moment. » En fait, ce système de freinage d'urgence, c'est justement pour protéger les passagers qu'il a été mis en place. C'est ce que nous explique sur France Info Bernard Aubin. Il est le secrétaire général du syndicat du rail et des transports First.
Si vous avez un jour pris le train victime d'un arrêt d'urgence, vous le sentez parce que les freins freinent à fond et l'arrêt est un peu brutal. Donc en aucun cas, les passagers à bord ne courent de risque.
Marie, une fois ce système de sécurité déclenché, combien de temps le train va mettre pour s'arrêter ?
Eh bien, la réaction est très rapide, nous explique Renaud Kayanakis, invité de France Info également. Il est expert transport au sein du cabinet SIA Partners.
Là, il s'agit de même pas une minute. Hein, si on prend un train à grande vitesse, comme on sait que le train s'est arrêté à 2-3 km du lieu où on a retrouvé le conducteur, compte tenu de la vitesse, ça se fait assez rapidement.
Dans ces cas-là, en plus donc de ce système de sécurité, il y a toute une procédure d'alerte qui permet au Centre national des opérations de la SNCF de réagir, ajoute Renaud Kayanakis.
Dès que le train ne respecte pas les signaux, en fait, il y a un point opérationnel qui gère l'ensemble des trains, qui peut identifier qu'il y a un problème sur une ligne et sur une rame, et donc mettre en place l'ensemble des dispositifs pour éviter notamment des collisions ou le rattrapage d'un train par un autre.
Ce drame donc d'avant-hier vous rappelle peut-être la catastrophe du 24 mars 2015 lorsqu'un avion s'était écrasé dans les Alpes de Haute-Provence. C'est le copilote à ce moment-là qui s'était suicidé en utilisant le pilotage automatique pour diriger l'avion vers une montagne. Et bien sachez que pour les trains c'est différent, le pilotage automatique n'existe pas. Le conducteur ne peut donc pas programmer le train pour qu'il poursuive sa route. En clair, si lui, conducteur, est absent, le train s'arrête automatiquement.
Merci Marie pour ces explications. À réécouter sur francebleu.fr. Dans le ciel, Marie, brouillard
encore
et
du gris.
Oui, voilà, ouais. C'est ça. Brouillard et nuages, nos programmes ce matin du côté de la Bretagne et de la Normandie, mais aussi de la Nouvelle-Aquitaine, du centre Val-de-Loire et l'ouest de l'Occitanie. Le reste du pays pourra compter sur des éclaircies, voire même un grand soleil. Du côté des températures, si vous êtes à Belfort, 1 degré, Metz 3, Bourges 5, Tarbes 6, Rouen 9, Brest et Nice 10. Et puis sur la page Facebook, Alexandre qui est à Saint-Martin-le-Vinoux, lui relève 4 degrés sur son thermomètre. De son côté, Philippe est à Hofwiller, il a moins 1. Attention Philippe, il fait froid. Et Marie qui est à Anglette, elle a 9 degrés. Cet après-midi, le gris s'échappe par le nord-ouest du pays pour laisser place au soleil et au ciel bleu. La Bretagne sera quand même encore sous la grisaille. Du côté des températures, les minimales seront à 5 degrés, les maximales à 17. Et puis demain, la journée débutera par un retour du brouillard et des nuages. Pour tous ceux qui sont à l'ouest d'une ligne reliant Lille à Bordeaux, brume et éclaircies qui se généraliseront sur l'ensemble du pays l'après-midi. Pour les températures, il fera entre 0 et 16 degrés.
Ici, dès 5h, Catherine Quicandon, Marie Martirossian sur France Bleu.
Marie, vous a-t-on déjà offert un cadeau Noël qui n'allait meilleur pas du tout ?
J'ai pas en tête, mais je pense que oui, ça a dû m'arriver.
Alors, c'est le cas de Morane d'Angers qui a reçu il y a quelques années du papier toilette.
D'accord.
Avec marqué « Joyeux Noël » dessus.
Écoutez, pourquoi pas
hein. Non, mais non, il ne faut pas que ça donne des idées. Bon. Voilà. D'autres histoires sur francebleu.fr. Bon, il faut bien l'avouer qu'on a tous un jour ou l'autre reçu, voire offert, un cadeau qui tombe à côté.
Je pense que ça a dû m'arriver.
Mais c'est sûr, c'est sûr. Alors, ce qui n'est pas le cas de la hotte de Noël cette semaine, elle contient un Rubik's Cube. J'ai effectivement Batman, le coffret intégral d'Harry Potter, 100 euros pour vous acheter des livres. Si ça vous tente, 0810 055 056, 0810 055 056, venez nous dire quelle est votre première pensée du matin et on en parle dans quelques minutes. Mais à présent, musique avec Queen, I Want to Break Free. Bonne matinée sur France Bleu.
I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows I want to break free.
get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Whoa. Hey, God knows, got to make it on my own. Somebody can't you see? I've got to break free. I've got to break free.
I want to break free. Queen sur France Bleu. 5h40, Marie, nous en parlions tout à l'heure. Quand un cadeau ne convient pas, revendre celui-ci, surtout si c'est un cadeau Noël, n'est plus tabou. Est-ce que vous l'avez déjà fait ?
J'ai plus en tête, mais je crois que ça m'est déjà arrivé. Bah, en même temps, si on se dit qu'on ne l'utilise pas, autant,
oui, ça
autant
sert à
ça
quelqu'un
sert,
d'autre. Voilà. Exactement. Eh bien, sachez que là aussi, il faut faire attention à ne pas se faire arnaquer. Aude Razzo nous explique tout dans quelques instants sur France Bleu.
Pierre Bellemare racontait les histoires comme personne.
Et soudain, à l'horizon, un point lumineux accroche son regard.
Redécouvrez ces histoires extraordinaires en version podcast, à écouter quand vous voulez et gratuitement.
C'est pas possible. Non mais j'ai dû rêver.
Pierre Bellemare, ces histoires extraordinaires, est disponible sur la plateforme Radio France et l'application ICI. ICI. Ici, dès 5h.
Actu locale, musique et bonne humeur
sur France Bleu.
C'est pas vrai, votre rendez-vous pour éviter les pièges. Question qu'on se pose avec vous, Aude Razzo, ce matin. Comment revendre un cadeau de Noël sans se faire arnaquer ?
Oui, vous allez sans doute me trouver cynique. Quoi, on vient à peine de déballer les cadeaux qu'on nous parle déjà de les revendre ? Eh bien oui, désolé, sondage Ipsos très sérieux sorti le mois dernier. 4 Français sur 10 vont revendre des cadeaux de Noël. Chiffre aussi sur eBay, tous les ans, gros pic d'activité dès le 25-26 décembre avec plus d'1 million de nouvelles annonces. Donc ça vaut le coup qu'on en parle, c'est le moment idéal où les escrocs sortent du bois.
Et donc justement, Aude, comment peut-on débusquer ces escrocs ?
Bon, mettons que vous revendez sur le bon coin cet appareil à gaufres que votre oncle vous a acheté, vous en avez déjà. Ne répondez jamais à un acheteur qui insiste pour avoir votre numéro de téléphone, pour en discuter de vive voix. Vous restez sur la messagerie sécurisée de la plateforme, là où vous avez une trace. On refuse aussi un acheteur qui veut vous payer directement, sans passer par la plateforme. eBay, Le Bon Coin, Rakuten, la plateforme, c'est le seul moyen que vous avez de sécuriser la transaction. Deuxième cas de figure, si l'acheteur c'est vous, cet appareil à gaufres vous plaît beaucoup. Ben c'est pareil en fait, vous payez uniquement via la plateforme et méfiez-vous si l'annonce contient très peu de photos et que le vendeur, très pressé d'empocher votre argent, rechigne un peu à vous donner quelques infos basiques sur le produit.
Merci Aude Razzo, c'est pas vrai, on réécoute sur francebleu.fr ou sur l'application ICI.
France Bleu, ICI dès 5h.
Actu locale, musique et bonne humeur.
Et bonjour Alan.
Bonjour Catherine, je suis ravie d'être avec vous à l'antenne.
Mais nous aussi, bonjour, vous êtes Alan. Dans l'Allier à Courset et c'est la c'est première ça. Fois que vous nous appelez Alan.
C'est ça, c'est parce que je rends visite à ma famille parce que je n'ai pas pu y aller pour le réveillon. Du coup, j'ai un petit peu décalé du coup sur la route pour leur rendre visite en Champagne.
Donc, repas de fête aujourd'hui pour vous, c'est ça le programme ?
Oui, c'est ça, oui, c'est bon. Ça. Je vais voir ma sœur et mes parents.
Oui.
Du coup, ça fait plaisir de les voir. Pour les fêtes.
Effectivement, effectivement. Bon repas au menu, cadeau. Enfin, ça va être une journée de fête, quoi.
C'est ça, oui, la voiture est un petit peu chargée.
Un petit peu seulement.
Oui.
Le Père Noël a été généreux cette année, c'est ça ?
C'est ça, oui. On a fait un petit réveillon avec mon conjoint.
Oui.
Parce que lui travaillait le 24 et 25, donc du coup, on est restés tous les deux. Et puis aujourd'hui, c'est
la
famille,
avec
belle
la famille. Avant de recommencer la semaine prochaine pour le 31, on le disait avec Marie, on ne s'arrête plus.
Ah oui.
C'est ça. Alan, merci de nous avoir appelés. Vous êtes sélectionné pour peut-être remporter la hotte de Noël. Il y a plein de choses dans cette hotte. Un coffret de Johnny, un Rubik's Cube Batman, l'intégrale d'Harry Potter, un puzzle 3D. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir dans cette hotte ?
Oh, peut-être le Rubik's Cube.
Oui, Rubik's Cube, Batman, ouais. C'est bien, parfait. Il y a aussi plein de DVD de films classiques comme Chantons sous la pluie, Citizen Kane ou encore Casablanca. Alan, je vous souhaite une très belle journée en famille.
Ouais, également, très belle journée à vous. Merci. Et puis à très bientôt.
À très bientôt, mangez bien surtout.
C'est gentil.
Bonne journée à vous. Bonne journée, Alan. Merci, au revoir. Alors, on parlait de nourriture. Justement, Marie, est-ce que vous savez d'où vient le foie gras ?
Alors là, pas du tout.
Bon, et ben, nous parlons de son histoire dans moins de 3 minutes. Le temps d'écouter Julien Doré en duo avec Joseph Kamel. Beau sur France Bleu.
Assis sur le trottoir, la soirée n'est pas belle. Il est sûrement trop tard pour qu'elle prenne mon appel. Je laisserai un message pour avoir des nouvelles. Elle l'écoutera tout bas et le gardera pour elle. Cette nuit, je suis dans ma vie, elle en est tellement loin. Ses yeux rivés sur lui et sa peau sous ses mains. Assis sur le trottoir, c'est plus du tout pareil. Ce soir, j'envie celui qui verra son réveil.
Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Tu savais comme c'est beau.
Assise en face de moi, elle me regarde à peine. Quelque chose dans sa voix sonne comme un cœur qui saigne. Elle reçoit ce message qui soudain la rend belle. La lumière de l'écran, le sourire qu'il révèle. Cette nuit elle pense à lui, elle dit qu'elle n'y peut rien. Je me bats contre un souvenir en lui tenant la main. Assise en face de moi, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui lui manque au réveil.
Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau.
Elle a laissé son cœur entre nous.
Entre nous et le reste.
Elle a laissé son cœur à genoux.
Sur le sol des promesses.
Elle a laissé son cœur entre nous. Elle nous laisse le pire et le reste elle s'en fout. Si tu savais comme c'est faux. Si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau.
Joseph Kamel et Julien Doré, beau sur France Bleu, 5h47, c'est le moment de retrouver Nathalie Elal. Bonjour Nathalie.
Bonjour Catherine.
Dans votre coup de fourchette aujourd'hui, on se penche sur l'histoire d'un produit millénaire qui accompagne seulement depuis quelques années les tables de fête, c'est le foie gras. Il est né où ce produit d'exception Nathalie ?
À environ 5000 km d'ici, sur les rives du Nil. Il y a plus de 6000 ans dans le monde antique, un des rituels les plus connus de la pratique divinatoire se nomme les aruspices. On lit l'avenir dans les entrailles des animaux sacrifiés aux dieux comme des moutons, des volailles ou des oiseaux migrateurs. Les prêtres les examinent et ensuite les organes sont cuits et consommés par les participants. Ben oui, ils se régalent, ils se régalent. Ouais. Les Égyptiens de l'Antiquité, ils sont malins, ils constatent que le foie des oies est plus volumineux qu'à l'ordinaire. Ils décident de les domestiquer et de les engraisser en les nourrissant de figues. Et plus tard, les Hébreux, anciens esclaves des Égyptiens, perpétuent cette tradition du gavage. Ils se dispersent, les Hébreux, en Hongrie, en Pologne et aussi en Alsace. Ils élèvent des oies pour cuisiner avec leur graisse, car cuire la viande avec du beurre est interdit par les lois religieuses. Et dès le XVIe siècle, le foie gras d'oie alsacien est réputé.
Alors, il y a plein de foie gras, mais c'est celui du sud-ouest qui est le plus connu. Comment ça s'est passé? Comment c'est arrivé?
C'est arrivé parce qu'il y a le maïs qui est venu du Nouveau Monde et on le cultive. Quand il fait son apparition dans le Sud-Ouest aux environs du XVIIe siècle, il change la donne. Les paysans qui possèdent de petites exploitations préfèrent engraisser des volailles que d'élever des vaches. Et les oies et les canards, qui sont les seuls palmipèdes à stocker des aliments dans leur foie, adorent le maïs. Moi aussi, je suis un bon palmipède, je vous assure. Très vite, la graisse, la viande et les foies conservées dans des pots en grès deviennent la principale ressource alimentaire des habitants de la région.
On connaît le foie gras frais, mais il y a aussi des conserves de foie gras. Comment et où sont-elles nées, Nathalie?
Oui, d'ailleurs, c'est historique, ces conserves. Le foie gras est produit en quantité plus importante aux environs du XVIIIe siècle, dans le Sud-Ouest, donc on le trouve sur les marchés, ce qui est nouveau. Et autre nouveauté, l'ajout de truffes qui commence cette fois-ci à Strasbourg, grâce à un cuisinier nommé Jean-Pierre Clauze, l'inventeur du pâté de foie gras. La recette est vite copiée par le Périgord qui a l'avantage de produire des truffes en abondance. Et en 1830, l'invention de la boîte de conserve, d'abord destinée aux sardines, permet de faire voyager le foie gras partout dans le monde. Il faut quand même attendre les années 1980 pour qu'il apparaisse en grande distribution. Moins coûteux que celui de l'oie, grâce à un gavage plus rapide, le foie gras de canard permet au Sud-Ouest de dépasser l'Alsace, sa rivale de toujours. Et quelle que soit sa provenance, Sud-Ouest, Alsace, bon, le foie gras, ça représente, il faut le dire, un art de vivre, un savoir-faire, un terroir, vous êtes d'accord?
Ah oui.
C'est un morceau de notre patrimoine culturel et gastronomique que vous avez dans votre assiette. Alors profitez-en et régalez-vous pleinement.
Merci Nathalie Elal et à demain pour une petite recette de bouillon au miso et pickles d'ail et de gingembre. Vous allez adorer.
Ici, dès 5h.
Actu locale, musique et bonne humeur
sur France Bleu.
Plus d'un foyer français sur deux vit avec un animal de compagnie. Ils occupent une place importante et précieuse dans notre vie. Ils font partie de la famille.
Bien sûr, mais bien s'occuper de Chai le chat ou de Queenie le cochon d'Inde, ça représente un certain budget. Quel est le vrai coût donc d'un animal de compagnie?
C'est la question que se pose le journaliste François Gential dans le dernier numéro de 30 millions d'amis. Bonjour François.
Bonjour.
François, globalement, combien ça coûte de s'occuper d'un animal de compagnie?
Officiellement, ça coûte pas loin de 1000 euros pour une année, mais dans la pratique, ça coûte beaucoup plus cher. Avec des mauvaises surprises, il y a des familles qui, tout d'un coup, voient y arriver des factures de 800 euros, 1200 euros, parfois jusqu'à 3000 euros. Et elles ne sont pas... elles ne sont pas préparées à ça. Et encore une fois, tous les sondages le montrent, les familles sous-estiment très largement les budgets d'un animal de compagnie.
Surtout que ces budgets-là varient en fonction de la race et puis il y a l'espérance de vie aussi qui progresse.
Considérablement, oui, ça dépend de la race, ça dépend aussi de la localisation puisque les soins sont évidemment beaucoup plus chers dans les grandes métropoles que dans les campagnes.
Quels sont les postes de dépenses à prendre en compte quand on adopte un animal, les principaux?
Il y a d'abord la nourriture, bien sûr, et il y a une très forte pression marketing, bien sûr, de la part des fabricants de croquettes et de pâtés.
Donc il y a la nourriture, mais il y a quoi d'autre?
Il y a la nourriture et il y a les soins vétérinaires. Et ça, ils ont énormément augmenté parce que la technologie a progressé. Aujourd'hui, vous avez chez des vétérinaires des plateaux techniques qui sont dignes de grands hôpitaux, de grandes cliniques. Donc vous avez des soins qui se facturent 1000 euros, 1200 euros. Il y a des plateaux avec des appareils à dialyse, avec de l'endoscopie, enfin toutes choses qui n'existaient pas encore il y a 10 ans.
Alors il y a aussi les jouets, le toilettage, les frais de garde. On parle aussi de plus en plus de l'assurance pour animaux. Est-ce que c'est intéressant pour notre budget de prendre une assurance?
Difficile de répondre catégoriquement parce que si vous assurez votre animal, il faut le faire dès le début parce que vous ne pouvez pas, ou c'est très cher, assurer votre animal quand il commence à vieillir. Là, les assurances ne vous prendront pas. Donc, il faut commencer à l'assurer tout de suite. Mais dès lors, vous allez avoir un budget très important puisque vous allez investir pendant des années presque à perte. Donc, se développe l'idée que le mieux, c'est de mettre 20 euros de côté chaque mois et d'avoir une stricte discipline et le faire. Et au cours de cette enquête, j'ai rencontré beaucoup de gens qui s'astreignaient à ça. Ils mettent 20 euros chaque mois dans une caisse et l'effet est presque le même qu'une assurance.
Quels sont vos conseils, François, pour réduire la facture, justement?
Il y a beaucoup de moyens aujourd'hui à disposition des gens. D'abord, il y a Internet, ce qui permet de comparer les prix. Ça permet aussi d'acheter en grande quantité dès lors qu'une bonne occasion se présente sur Internet. Il y a quand même de plus en plus d'enseignes spécialisées qui font des gros efforts pour maintenir les coûts. Ce qui est intéressant à noter, c'est que la grande distribution s'est lancée dans les produits pour animaux et les marques de distributeurs maintenant ont une part de marché très importante. Donc ça a permis de contenir les prix.
François, vous avez vous-même des animaux à la maison ?
Oui. En fait, ma femme a recueilli 2 chats il y a 2 ans. Et c'est devenu une passion.
Nous leur faisons un gros câlin ainsi qu'à tous ceux qui nous écoutent. Plus d'informations sur le coût d'un animal dans le dernier numéro de 30 millions d'amis. Il y a aussi une interview de Stéphane Bern qui a 2 teckels et un article sur le respect de l'animal enseigné à l'école. Merci François Gential. Bonne journée.
Merci.
À suivre la rétrospective de l'année de Willy Revelli. Vous ne savez plus ce qui s'est passé en 2024. Ne vous inquiétez pas, il va tout vous rappeler. Après It's Raining Men, The Weather's Girl sur France Bleu. Weather's Girl, 5h37, Marie, plus que quelques jours avant la fin de l'année. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas eu le temps de faire cette année par hasard ?
Moi, je voulais apprendre à faire de la guitare. Bon. J'ai pas du tout le temps.
Bah, c'est voilà. Pas grave, l'année prochaine.
2025 peut-être.
Allez, voyons ce que nous avons oublié cette année avec Willy Revelli, qui lui se souvient de tout, bien sûr, et toujours avec humour et son humour qui le caractérise. Bonjour Willy.
Bonjour la France en bleu, bonjour tout le monde. Et oui, c'est moi, Willy Revelli. Vous ne vous souvenez plus de tout ce qui s'est passé en 2024. Pas de panique, voici le récap 2024. Et on commence en janvier. Elisabeth Borne, Tati Congélo, virée de Matignon, a organisé son pot de départ dans un Picard. C'était très chaleureux. D'un commun accord, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne se partagent la garde des 49-3. 29-65 chacun. Février, l'animateur Nikos, victime d'une tentative de cambriolage. Ouais, pour Lenny, faites le 1. Pour Djibril, faites le 2. Pour la police, faites le 17. Patrick Sébastien a également été victime d'une tentative de cambriolage. Les voleurs ont ouvert la porte et là, l'alarme s'est déclenchée. Ils se sont vite barrés. Hein. Après, ah si tu pouvais fermer ta gueule. La nouvelle chanson de Patrick Sébastien s'appellera Ah si tu pouvais fermer ta porte. En mars, Emmanuel Macron se prononce dans le journal La Croix pour une aide à mourir en annonçant un projet de loi sur la fin de vie. On rappelle que l'aide à mourir existe déjà en France. Hein. Ça s'appelle un album des 3 cafés gourmands. En avril, une Américaine reste coincée 15 heures sur une télécabine en Californie. Comme le dit le proverbe montagnard, on ne fait pas de télécabine sans bloquer des œufs. En mai, Netflix propose une série en 8 épisodes sur la vie de la star du X, Rocco Siffredi. Ça s'appelle Super Sex. Dans 8 épisodes, c'est un peu long, mais enfin avec Rocco, on a l'habitude. Il paraît qu'à Netflix, ils ont failli l'appeler la série La Casa de Popol, mais bon, à vérifier quand même. En mai, Joe Biden était en France pour les 80 ans du débarquement. Vu qu'il ne faisait plus vieux que certains vétérans, c'était compliqué parfois pendant la cérémonie. Ah, bravo monsieur, merci d'avoir sauvé la France. Ah, mais je suis le président des États-Unis. Mais oui, oh là là, le pauvre, les ravages de la guerre. En juin, disparition de l'interprète mythique du tube Tous les garçons et Marine. Éric Ciotti n'est plus président des LR. Éric Ciotti, ça s'est joué à un cheveu qui ne rejoigne pas le RN, mais comme il en a plus. En juillet, les maraîchers appellent les Français à manger des fraises françaises, nombreuses et pas chères. En plus, c'est super, Joe Biden les avait déjà bien toutes sucrées lors de sa visite en France. Zinedine Zidane, porteur de la flamme olympique, c'est mérité, c'est un grand champion. Zidane, c'est un peu le DSK du foot. Sa carrière aussi s'est arrêtée sur un coup de boule. Enfin, la question du jour, à force de vapoter, est-ce qu'Elisabeth Borne est partie en fumée? Ah bah vous avez 2 heures. Allez, heureusement, dans 4 jours, c'est fini 2024.
Et oui, c'est bientôt fini 2024. Merci Willy Revelli. Et puis on vous retrouve demain, bien sûr, pour la suite de votre rétrospective. Encore plein de choses qu'on a oubliées, mais dont il faut se souvenir. Et maintenant, c'est toute l'équipe d'Ici Matin qui vous rejoint. Je vous souhaite une très très belle journée sur France Bleu.
Ici Matin,
François-Xavier Canova
sur France Bleu Paris.
Bonjour François-Xavier.
Bonjour Catherine.
Vous avez le sourire ce matin.
Oui, on a le sourire. Bah, c'est le fait de vous voir en fait. Ça va gagner ma journée.
Avec ça.
Mais bien sûr que si.
Regardez Maxime glorieux et jaloux.
Pipo, là. Oui, bah,